Avec juin arriva la chaleur. Je vivais désormais dans le jardin, ne le quittant à regret que pour dormir. Dès le premier jour du mois, on avait retiré le mât et le drapeau poissonneux. Les garçons n'étaient plus à l'honneur. C'était comme si l'on avait déboulonné la statue de quelqu'un que je n'aimais pas. Plus de carpes dans le ciel, juin me fut d'emblée sympathique. La température autorisait à présent les spectacles en plein air. On m'annonça que nous étions tous conviés à aller écouter chanter mon père. « Papa chante ?»« Il chante le no. »« C'est quoi ? Tu verras. » Je n'avais jamais entendu mon père chanter. Il s'isolait pour ses exercices, ou alors il les faisait à son école, auprès de son maître de no. 20 ans plus tard, j'appris par quel singulier hasard l'auteur de mes jours, que rien ne prédisposait à une carrière lyrique, était devenu chanteur de no. Il avait débarqué à Osaka en 1967 en tant que consul de Belgique. C'était son premier poste asiatique et ce jeune diplomate de 30 ans avait eu pour ce pays un coup de foudre réciproque. Le Japon devint et demeura l'amour de sa vie. Avec l'enthousiasme du néophyte, il voulait découvrir toutes les merveilles de l'Empire. Comme il ne parlait pas encore la langue, une brillante interprète nippone l'escortait partout. Elle lui tenait lieu aussi de guide et d'initiatrice aux diverses formes d'arts nationaux. Voyant combien elle était ouverte d'esprit, elle eut l'idée de lui montrer l'un des joyaux les moins accessibles de la culture traditionnelle, le no. À l'époque, les Occidentaux y étaient aussi fermés qu'ils étaient favorables au kabuki. On l'emmena donc au sein d'une vénérable école de no du Kansai, dont le maître était un trésor vivant. Mon père eut l'impression de se retrouver 1000 ans en arrière. Ce sentiment s'aggrava quand il entendit le no. Au premier abord, il crut que c'était des borborygmes issus du fond des âges. Il éprouva le genre de malaise hilar qu'inspirent les reconstitutions de scènes préhistoriques dans les musées. Peu à peu, il comprit que c'était le contraire, qu'il avait affaire à la sophistication même et qu'il n'y avait pas plus stylisé et civilisé. De là à trouver cela beau, il y avait un pas qu'il ne pouvait encore franchir. Malgré ces décibels étranges qui l'effaraient, il conserva l'expression avenante et charmée d'un vrai diplomate. Au terme de la mélopée, qui bien entendu s'étendit durant des heures, il n'afficha pas l'ombre de l'ennui qu'il avait ressenti. Entre-temps, sa présence avait provoqué la perplexité de l'école entière. Le vieux maître de no finit par venir au-devant de lui pour lui dire « Honorable hôte, c'est la première fois qu'un étranger pénètre ces lieux. Puis-je solliciter votre opinion sur les chants que vous avez entendus ?» L'interprète fit son office. Confondu d'ignorance, mon père hasarda de gentils clichés sur l'importance de la culture ancestrale, la richesse du patrimoine artistique de ce pays et autres sottises plus touchantes les unes que les autres. Consterné, l'interprète décida de ne pas traduire une réponse aussi bête. Cette japonaise lettrée substitua donc son propre avis à celui de l'auteur de mes jours et l'exprima en des mots choisis. Au fur et à mesure qu'elle traduisait, le vieux maître écarquillait les yeux de plus en plus. « Quoi ? Ce blanc ingénu qui venait à peine de débarquer et qui écoutait du no pour la première fois avait compris l'essence et la subtilité de cet art suprême. » En un geste invraisemblable de la part d'un nippon, a fortiori d'un trésor vivant, il prit la main de l'étranger avec solennité et lui dit « Honorable hôte, vous êtes un mage, un être exceptionnel. Vous devez devenir mon élève. » Et comme mon père est un excellent diplomate, il répondit aussitôt par le truchement de la dame « C'était mon souhait le plus cher. » Il ne mesura pas d'emblée les conséquences de sa politesse, supposant qu'elle resterait lettre morte. Mais le vieux maître, sans attendre, lui ordonna de venir prendre sa première leçon à l'école le surlendemain à 7 heures du matin. Un homme sain d'esprit eut tout fait annuler le lendemain même par un coup de téléphone de sa secrétaire. L'auteur de mes jours, lui, se leva à l'aube du surlendemain et vint à l'heure fixée. Le vénérable professeur n'en parut pas le moins du monde étonné et lui prodigua son âpre enseignement sans l'ombre d'une indulgence, considérant qu'une aussi grande âme méritait l'honneur d'être traitée à la dure. À la fin de la leçon, mon pauvre père était vanné. « Très bien, » commenta le vieux maître, « revenez demain matin à la même heure. » « C'est que je commence à travailler à 8h30 au consulat. »«
Aucun problème.
Venez donc à 5h du matin. »
Effondré, l'élève obéit. Il vint à l'école chaque matin à cette heure inhumaine pour un homme qui avait déjà un métier astreignant, sauf les week-ends où il pouvait se permettre de commencer son cours à 7h du matin, ce qui constituait un luxe de paresse.
Le disciple belge se sentait écrasé par ce monument de civilisation nippone auquel on tentait de l'incorporer. Lui qui, avant son arrivée au Japon, aimait le football et le cyclisme, se demandait par quel saumâtre bévu du hasard il se retrouvait à sacrifier son existence sur l'autel d'un art aussi abscon. Cela lui convenait aussi peu que le jansénisme à un bon vivant ou l'ascèse à un goinfre. Il se trompait. Le vieux maître avait eu parfaitement raison. Il ne tarda pas à débusquer, au fond de la large poitrine de l'étranger, un organe de premier ordre. « Vous êtes un chanteur remarquable, » dit-il à mon père qui entre-temps avait appris le japonais. « Je vais donc compléter votre formation et vous apprendre à danser. »«
À danser ? Mais, honorable maître, regardez-moi, » balbutia le belge en montrant son épaisse silhouette pataude.
« Je ne vois pas où est le problème. Nous commencerons la leçon de danse demain matin à 5h. »
Le lendemain, au terme du cours, ce fut au tour du professeur d'être consterné. En 3 heures, malgré sa patience, il ne parvint pas à arracher à l'auteur de mes jours le moindre mouvement qui ne fût navrant de gaucherie et de balourdise. Poli et attristé, le trésor vivant conclut par ces mots. « Nous allons faire une exception pour vous. Vous serez un chanteur de no qui ne dansera pas. » Plus tard, mort de rire, le vieux maître ne manquerait pas de raconter à ses choristes à quoi ressemblait un Belge qui apprenait la danse de l'éventail. Le piètre danseur devint cependant un artiste sinon époustouflant, du moins appréciable. Comme il était le seul étranger au monde à posséder ce talent, il devint célèbre au Japon sous le nom qui lui est resté, le chanteur de no aux yeux bleus. Tous les jours, durant les 5 années de son consulat à Osaka, il alla prendre, à l'aube, ses 3 heures de leçon chez le vénérable professeur. Il se noua entre deux le lien magnifique d'amitié et d'admiration qui unit, au pays du soleil levant, le disciple au sensei. À 2 ans et demi, je ne savais rien de cette histoire. Je n'avais aucune idée de la façon dont mon père occupait ses journées. Le soir, il rentrait à la maison, j'ignorais d'où il venait. « Qu'est-ce qu'il fait, papa ? » demandai-je un jour à ma mère. « Il est consul. » Encore un mot inconnu dont je finirais bien par trouver la signification. Vint l'après-midi du spectacle annoncé. Ma mère emmena au temple Hugo et ses 3 enfants. La scène rituelle du no avait été installée en plein air dans le jardin du sanctuaire. Comme les autres spectateurs, nous reçûmes chacun un coussin dur pour nous y agenouiller. L'endroit était très beau et je me demandais bien ce qui allait se passer. L'opéra commença. Je vis mon père entrer sur scène avec l'extrême lenteur requise. Il portait un costume superbe. Je ressentis une grande fierté de voir un géniteur aussi bien vêtu. Puis il se mit à chanter. Je réprimai une expression de terreur. Quel était donc ce son bizarre et effrayant qui sortait de son ventre? Quelle était cette langue incompréhensible? Pourquoi la voix paternelle s'était-elle transformée en cette plainte méconnaissable? Que lui était-il arrivé? J'avais envie de pleurer comme devant un accident. « Qu'est-ce qu'il a, papa ?» chuchotai-je à ma mère qui m'ordonna de me taire. « Était-ce chanter ?» Quand Nishio-san me chantait des comptines, ça me plaisait. Là, les bruits qui sortaient de la bouche de mon père, je ne savais pas si ça me plaisait, je savais seulement que ça m'épouvantait, que je paniquais, que j'aurais voulu être ailleurs. Plus tard, bien plus tard, j'ai appris à aimer le no, à l'adorer, comme l'auteur de mes jours qui eut besoin d'apprendre à le chanter pour l'aimer à la folie. Mais un spectateur inculte et sincère qui entend du no pour la première fois ne peut éprouver qu'un profond malaise, comme l'étranger qui mange pour la première fois l'âpre prune marinée au sel du petit déjeuner traditionnel japonais. Je vécus un après-midi redoutable. À la peur initiale, succéda l'ennui. L'opéra dura 4 heures, pendant lesquelles il n'arriva strictement rien. Je me demandais pourquoi nous étions là. Je ne semblais pas la seule à me poser cette question. Hugo et André montraient qu'ils s'emmerdaient. Quant à Juliette, elle s'était carrément endormie sur son coussin. J'enviais cette bienheureuse. Même ma mère avait du mal à réprimer quelques bâillements. Mon père, agenouillé pour ne pas danser, psalmodiait son interminable mélopée. Je me demandais ce qui se passait dans sa tête. Autour de moi, le public japonais l'écoutait avec impassibilité. Signe qu'il chantait bien. Au coucher du soleil, le spectacle s'acheva enfin. L'artiste belge se leva et quitta la scène beaucoup plus vite que la tradition ne l'autorisait, et ce pour une raison technique. Pour un corps nippon, rester à genoux pendant des heures ne pose aucun problème, alors que les jambes paternelles s'étaient profondément endormies. Il n'avait pas d'autre choix que de courir vers les coulisses pour s'y effondrer à l'abri des regards. De toute façon, Ono, le chanteur ne revient pas sur scène récolter les applaudissements, lesquels sont d'ailleurs toujours aussi peu nourris. Ovationner un artiste qui viendrait saluer eût paru du dernier vulgaire. Le soir, mon père me demanda ce que j'avais pensé de la représentation. Je répondis par une question. « C'est ça, être consul? C'est chanter ?» Il rit. « Non, ce n'est pas ça. »«
C'est quoi alors, consul ?»
C'est difficile à expliquer. Je te dirai quand tu seras plus grande.
Ça cache quelque chose, pensais-je. Il devait avoir des activités compromettantes.